Bonjour les devs, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, le podcast indépendant, le seul, l'unique, où on parle de développement web. Comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde. Moi, juste avant de commencer, je voudrais faire un grand remerciement aux sponsors. On a eu des nouveaux sponsors ce mois-ci, des gens qui ont donné en one shot et des gens qui se sont abonnés de manière récurrente tous les mois. Donc, un grand merci à eux avant de commencer cet épisode. Sans ça, ça serait un peu plus dur et donc c'est d'autant plus facile pour tout le matos. C'est pour toute la suite. Donc, un grand merci à vous.
Ouais, merci. On a à peu près 11 donateurs mensuels. Et puis après, de temps en temps, on a des one-shots comme ça. Et des personnes même qui restent en privé, qui ne veulent pas être publiées. Donc, voilà. Merci à eux.
Ouais. Un grand merci. Un grand merci. Petit épisode de news, on revient sur l'actualité, la première fois sur cette nouvelle année du mois de janvier. On va essayer d'avoir différentes catégories, des brèves, vraiment des news très 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 rapides où on va un peu survoler pour voir un peu toute l'évolution et ce qui se passe. Évidemment, il y aura une rubrique sur les dernières sorties. On peut déjà tweeter, on peut déjà un peu faire du teasing, mais il y a Tailwind en version 4, ça y est, c'est officiel, on va en parler. Ouais. Des sujets un petit peu plus profonds et sur des articles aussi qu'on a parcourus. Et évidemment, maintenant, une petite rubrique IA où on va pouvoir parler de toute l'évolution et comment on va s'adapter à cette nouvelle... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un nouveau langage ou en tout cas, c'est un nouvel outil pour nous, les devs? Ça, c'est clair.
Ça, c'est un nouvel outil, ça, c'est clair. On est obligé de s'y intéresser et puis de savoir ce qui sort régulièrement. Et, ça, et ça n'arrête pas, en plus.
donc, on est parti. Allez, on attaque tout de suite par les premières brèves rapides. Clairement, on parle de React.
Ouais, ça va parler de React d'entrée. Vercel qui rachète Tremor, qui est un projet open source, une librairie de components, mais une librairie de components qui est spécialisée dans tout ce qui est charts, en fait, graphiques, etc. Donc, c'est une trentaine, je crois, de components, un peu plus de 35 components accessibles, etc. Et donc, ils ont racheté ça donc, pour le soutenir certainement. Et puis, certainement qu'ils doivent l'utiliser aussi dans leur dashboard ou des choses comme ça. Et ils voulaient pérenniser le truc, non?
Je pense qu'eux-mêmes, ils sont en train de tout centraliser sur leur plateforme, où en fait, ils connectent différentes solutions à leur propre plateforme. Et donc, tout ce qui est observabilité, et puis même, on sait tous que la disposition de données brutes JSON directement, on ne va pas faire grand-chose, donc il faut une librairie pour les interpréter. Et le fait de tout centraliser chez eux, ils sont encore plus forts, quoi. Bon, après, quant à leur budget marketing, quant à leur budget, voilà, tu peux faire des acquisitions dans tous les sens. C'est normal. Oui. Après, s'ils nous permettent en fait d'utiliser la librairie facilement on n'est pas obligé de le faire tourner sur Vercel, ça va.
Non, je pense que c'est bon.
Je troll à moitié, mais voilà. Après, c'est toujours cool d'avoir des gros acteurs qui investissent sur des librairies parce qu'au moins on est sûr de la stabilité et la pérennité du projet dans le temps. On sait que voilà, ça va évoluer. C'est intéressant. C'est des outils en plus. Franchement, c'est très cool, c'est très bien, et on peut faire des en 2-2, on peut faire des trucs super chiadés, quoi. Donc c'est top.
Yep. C'est top.
Next, qu'est-ce qui la suite, c'est
t'as perdu tes news.
Ouais, j'ai perdu mes news.
Donc la suite, c'est microphone. C'est Vercel qui adopte Micro Frontend. Donc, un petit article de blog sur le Vercel, toujours. On a les deux premières news, c'est Vercel, qui explique qu'ils sont passés sur un système en micro frontend. Avant, ils étaient en monolithique. Et ils ont explosé, en fait, en différentes applications. Donc, tout ce qui est dashboard, tout ce qui est documentation, etc. Le site aussi, avec les articles, tout ça. C'est plusieurs petites applications. et qui sont évidemment gérés avec Turbo Repo, donc en mono repo, mais en différentes petites applications. Voilà.
Après, en fait, c'est le gros avantage de Turbo Repo, et pour ceux qui ne connaissent pas la fonction de mono repo, on vous invite à aller voir le lien qu'on mettra aussi. On a fait un épisode spécial sur les mono repo, quels sont les avantages. Mais c'est vrai que le fait de tout centraliser dans un seul mono repo, mais de découper toutes les fonctionnalités entre la doc, le front, l'admin, en fait, tu viens mutualiser et centraliser toute la logique, et tu peux réutiliser tes composants. Néanmoins, pour le site de doc, par exemple, tu vas faire un export en statique, et pour ton dashboard, tu n'as pas besoin d'avoir du statique, donc tu vas faire une simple SPA. Néanmoins, tu vas hériter de tout le background technique que tu as déjà développé et que tu n'as développé qu'une seule fois. Donc, ok, intéressant. Et ils expliquent comment ils ont fait la migration.
Ouais, ils expliquent comment c'est... Bah, pas autant détaillé, mais ils expliquent la structure, comment elle s'organise, etc., avec les URL, tout ça. Puis, principalement, ils ont gagné 40% quand même dans l'étape de compilation, en temps de compilation. Donc, c'est plutôt un gain intéressant. Et puis, je pense que c'est aussi peut-être plus simple à gérer... pour le développement, tout ça.
Pour les dépendances, hein, c'est souvent c'est un gain qui est monstrueux, quoi. Donc, yes. Ah, ça, c'est une news qui me fait plaisir, qui me fait vraiment plaisir. Les JavaScript temporels. Alors, je pense qu'en tant que bon développeur front, mais même du back, on sait que gérer les dates, c'est la merde. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu plein. Non, mais c'est vrai, c'est super chiant.
Ah, mais complet.
Dès que tu dois commencer à faire des calculs en disant oui, alors en fait, c'est une projection dans 3 heures, ça sera disponible une journée œuvrée plus 4 heures ou des choses comme ça. Waouh, tu vas vite te prendre la tête. Et c'est pour ça qu'il y a eu une effervescence de librairies qui sont sorties. Une des plus connues, c'était Moment, qui aujourd'hui s'est fait remplacer. Enfin, je considère qu'elle s'est fait remplacer par des DJS ou des choses comme ça qui sont beaucoup plus légers. Et là, en fait, après longtemps, je crois, ils ont mis je ne sais pas combien de... j'ai lu, ils avaient 270 pages de documentation pour expliquer le concept. Et ils arrivent enfin à tomber comme un accord sur OK, comment on va gérer les dates.
Ça sort. Et donc c'est là, officiel, ça arrive.
Ça avance.
Ça, surtout.
Ça, c'est cool. Ça, c'est
parce
cool.
Parce qu'on en avait parlé, je ne sais plus, il y a peut-être un an, quoi, dans un épisode.
Ah, facile, ouais.
Là, ça y est, ça commence à être implémenté dans les navigateurs. Donc, c'est toujours en mode expérimental. Enfin, voilà. Donc, il faut être il faut utiliser les navigateurs expérimentaux, les night builds ou les trucs comme ça.
Ou peut-être
les canaries,
derrière.
Chez Chrome, je crois.
Ou peut-être derrière.
Et après, il y a des flags.
Ouais, ok.
Ouais, voilà. Mais en tout cas, ça arrive. En tout cas, ça commence à être implémenté dans les browsers. Donc, on peut imaginer peut-être que d'ici peut-être 2 ans, ça
peut-être
sera généralisé.
Peut-être. Bon, toujours est-il, on va toujours utiliser Date FNS ou un truc comme ça, ou Moment, ou DJS. On va pas le dire tout de suite, parce que avant que ça soit...
Pour l'instant, c'est pas pour de suite. Mais après, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle, parce que c'est souvent des librairies qui sont relativement lourdes.
Ouais.
Et ça augmente vraiment considérablement le bundle final.
Ouais.
Donc même les plus light sont quand même assez lourdes.
DJS. Donc Patrick, regarde DJS, c'est vraiment petit. Mais c'est sûr que ça serait toujours plus gros que si c'est géré directement en natif.
Ah bah natif, c'est mieux, c'est clair.
C'est évident. Yes.
On a loupé une news.
Ah, on a raté une news. Dis-moi.
Ouais, on a raté une news.
Ok,
on
t'écoute.
C'était Laravel avec Faker IA. En fait, Laravel, c'est une IA, le Faker, pour faire des données fake, quand tu veux remplir un peu ta base de données, etc. Et en fait, ça a été implémenté avec OpenAI. Ils ont rajouté une branche pour avoir OpenAI, mettre tes clés API, et en fait, tu demandes à l'IA de générer des données fake pour remplir ton app.
C'est top, ça. C'est ça.
C'est ça.
Ok. Et pour le coup, c'est natif ou il faut installer quelque chose?
Alors, généralement, tu installes le package pour Laravel pour générer des données que tu vas remplir ta base de... En fait, tu vas remplir ta base de données quand tu développes avec des données fake. Et généralement, tu lui demandais, fais créer un user, créer des trucs comme ça, tu vois. Mais il y avait déjà des fonctions qu'il créait. Et là, tu vas carrément demander un prompt à l'IA pour que te génère des choses un peu plus complètes. Voilà. Il donne l'exemple du premier équipe de foot d'Angleterre. Bah, ça donne Manchester United. Voilà, ça va chercher un petit peu plus loin. Donc, on va dire, c'est un petit peu too much, mais ça peut être intéressant dans certains cas de figure. Et puis, c'est marrant de faire générer ça par une IA.
Oui, oui. Après, c'est une occasion. C'est aussi une bonne occasion d'aller croquer des crédits open IA. Tu vois, c'est cool.
C'est ça. De polluer.
Mais après, c'est sympa. Après, il y a quand même pas mal de librairies qui existent déjà sur le fait de faker. Donc, potentiellement, on pourrait s'en passer. Mais là, c'est peut-être pour aller chercher des données réelles et non pas des trucs complètement sortis du chapeau, générer des trucs trop bizarres. Là, c'est des données qui peuvent être plausibles et potentiellement réelles.
Ouais, du texte, quoi. Elle est capable de générer des paragraphes ou des choses comme ça, un peu plus structuré que du lorem ipsum, tu vois.
Ça permet
de remettre en situation ton application.
Yes. Carrément, carrément. Et donc, allez, maintenant, on peut le dire, on peut en parler pour de vrai, on peut dire, on peut revenir sur la nouvelle. Ça y est, Tailwind. Tailwind.
Il n'a pas eu longtemps entre la bêta et la version finale, parce qu'on en avait parlé dans l'épisode de décembre, je crois. Donc, c'était assez rapide. Mais le temps de gestation a été très long avant d'arriver à la bêta. Mais là, ça y est. C'est sorti, version 4 de Tailwind.
Et ils annoncent un score de 100 fois plus rapide sur l'engine, sur le moteur de rendu, c'est hallucinant. Oui. Quoi. Et 5 fois plus rapide sur la construction, sur le build. Vraiment, c'est OK.
Ouais, c'est ça le gain, surtout. C'est vraiment de performance de build, d'incrémental, tout ça. Enfin voilà, ça répond hyper vite. Mais ça, c'était le moteur Catalyst, il me semble, qu'ils avaient développé ou un truc comme ça. Mmh. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, gros gain au niveau de l'expérience développeur, en tout cas, ça c'est sûr.
Après, le gros avantage, c'est CSS first, quoi. Avant, il y avait un peu cette idée de côté un peu hybride où on faisait quand même sa config tout en JS. Et donc, voilà. Là, pour le coup, ils reviennent sur des fondamentaux et ils implémentent en fait des fonctions natives qui sont sorties en CSS et qui sont stabilisées et propres pour justement en fait venir construire par-dessus. Ce qui fait que je pense aussi que la portabilité d'un projet vers du Tailwind sera d'autant plus facile, je pense. Hein. Après, je suis pas allé investiguer.
De toute façon, ça prend en charge vraiment. En fait, ils ont tout porté sur du natif. C'est les variables CSS pour tout ce qui est config, etc. Ils ont les container queries aussi qui sont pris d'office aussi, je crois. C'est intégré. Enfin voilà, tout devient natif par défaut et c'est aussi pour ça qu'il y a une meilleure performance aussi, je pense.
Ouais. Par contre, je vais redire ce que moi j'ai déjà dit la fois précédente. Tout le monde est d'accord pour dire que le passage de la V3 à la V4 ne va pas se faire sans friction, quoi.
Ça, c'est sûr. Tout dépend, je pense, de la taille de l'app, mais
ouais.
Oui. Mais il y a quand même des outils, normalement. Alors moi, j'avais testé au moment de la bêta, on en avait déjà parlé, mais bon, ils ont peut-être amélioré les choses. Après, il y a des outils, donc faites-nous vos retours si vous avez testé une migration sur la V4 de Tailwind, et puis dites-nous si ça s'est bien passé ou pas, ou si c'est compliqué. Voilà.
Ouais, mettez ça en commentaire. Super curieux des retours. Super curieux. Allez. Autre annonce aussi de Medusa, qui est le e-commerce modulaire, un peu qui se veut en concurrence directe avec Shopify. Par contre, là pour le coup, on va garder le contrôle de tout. Tout a un niveau de tout est module, tout est granulaire. Donc on peut installer que la partie front, que la partie headless, que la partie admin. Et chaque brique va pouvoir interagir. Et là, ils reviennent avec un système de plugin. C'est quoi exactement ce système de plugin?
Bah, ils ont sorti il y a quelques temps la version 2 de
Grosse refonte, ouais.
Medusa. Ouais, grosse refonte, grosse restructuration. En fait, je crois qu'ils ont tout réécrit. Hein. Et donc, ils ont rajouté cette fonctionnalité-là. Juste, voilà, c'est tout frais. Le 27 janvier, on est le 28. Donc, de pouvoir développer des plugins et rajouter des plugins. Donc, il y a déjà des plugins qui existent que tu peux utiliser, comme MediaSearch et des choses comme ça, ou Stripe qui est déjà par défaut, je crois. Et tu vas pouvoir développer tes propres plugins, comme on peut le retrouver dans WordPress, WooCommerce, ou toutes ces choses-là, ou PrestaShop, ou etc., etc., quoi.
Donc, en fait, c'est une extension de feature que tu viens encapsuler dans un système de plugins, de modules, de ce que tu appelles, enfin eux ils appellent ça des plugins, mais c'est vraiment des extensions qui vont venir étendre les fonctionnalités natives du corps de Medusa.
C'est ça, mais c'est vraiment indispensable de toute façon à tout système open source pour qu'il s'adapte à tous les projets. Donc là, c'est peut-être la seule chose qui manquait à Medusa 2. Ça vient d'arriver, donc là, je pense que
Ouais. Et
ça va.
puis et
Ça va.
surtout, c'est aussi un bon moyen d'ouvrir la communauté et peut-être de développer un écosystème payant. Voilà, si aujourd'hui le WordPress a le succès qu'il y a, c'est qu'aussi il y a eu plein d'acteurs privés qui se sont mis et qui ont développé tout un écosystème de fonctionnalités payantes. Et donc, bah, on va dire la viabilité du projet tient aussi à ça, à tout son écosystème, à une communauté. Et le fait de permettre ce genre de fonctionnalité nativement, bah, ça ouvre en fait des grosses possibilités pour le futur. Donc c'est complètement, stratégiquement, c'est très très bien joué, quoi. Clairement.
Ouais, c'est donc Medusa, client très très sérieux pour le e-commerce, et puis là avec le système de plugin, ça va être vraiment une tuerie. Donc voilà, on va pouvoir adapter toutes les connexions avec des CRM ou ce que tu veux. Enfin, oh, c'est l'imagination est sans limite en fait.
Ouais.
Voilà.
Le seul problème, c'est qu'il arrive un peu tard pour moi. C'est le seul problème. C'est que au moment où moi j'ai commencé mon gros projet là, ils étaient pas encore matures et donc il fallait prendre une décision. Et je pense que je devrais, si je dois commencer aujourd'hui, repartir d'aujourd'hui, je pense que je m'y intéresserai vraiment parce que je pense qu'il y a moyen vraiment de faire des choses intéressantes avec Medusa. Yes. Ah, ça c'est du les Rising Stars. Ça c'est le nanar de tous les ans. Tous les ans en fait,
Et oui.
il y a le Best of JS. Tous les ans depuis 2016, ils font leur report. Alors on est très loin du State of JS. Qui est vraiment spécifique. Là, c'est un petit peu plus complet. Et en fait, on voit l'évolution, tous les écosystèmes, vraiment. Après, c'est vraiment de la fame parce que c'est la source, c'est le nombre de stars sur GitHub, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le classement par rapport aux stars sur GitHub.
Ouais.
Mais ça donne une idée des projets qui montent ou ceux qui descendent. Et puis, voilà, des projets populaires. Et puis, ça fait découvrir aussi des projets qu'on éventuellement ne connaît pas, qui sont dans la hype.
Ouais.
Donc, ouais.
Et pour le coup, sur les projets, donc tout confondu, pas de framework, rien du tout. On voit Excalidro, voilà, qui a explosé. Et alors Affine aussi, mais Bruno, sur lequel on avait
Ah bah
discuté
oui.
de Bruno, qui est super bien, qui est un très très un client sérieux pour remplacer Postman. Et très très intéressant. N8N pour l'automatisation, qui a connu un gros 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 succès avec l'IA, avec automatisation de tâches classiques, mais ils ont beaucoup investi sur les connecteurs IA, et ce qui fait que ça nous permet de faire des choses intéressantes. HTMX.
C'est fou, hein, HTMX, hein.
C'est
J'ai
fou.
retrouvé là.
Ouais. C'est hallucinant. Tori, qui est sorti en version 2. Qui est, on va dire, le digne successeur d'Electron, on pourrait dire. Je sais pas. On pourrait dire ça, non?
Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. En Rust. C'est
Exactement.
ça.
Supabase, qui se veut l'alternative open source à Firebase. Flowwise, ça, je connais pas ça.
C'est un système un peu de low code pour faire de l'IA, des RAG
Ok.
ou des choses comme ça.
Ok. et Payload, qui est un CMS headless. Intéressant.
Attends, t'as loupé le premier, le tout premier, au-dessus de Scalydro.
Le tout premier, c'est quoi? Ah, mais c'est chat. Bah oui. Là, on peut difficilement lutter contre ce raz-de-marée. Mais en même temps, le projet est super cool, c'est super quali. Chatsen/UI, c'est clair que c'est le... je crois qu'ils ont développé un truc de chart il n'y a pas très longtemps, non?
Honnêtement, je ne sais pas. Je ne l'utilise pas, donc ouais. C'est possible.
Et bon, ça, c'était pour tous les projets, on va dire, globaux. Pardon. Et il y a évidemment, pour chaque framework, React, Vue, tout l'écosystème back-end, tout l'écosystème tooling, le mobile, l'IA. On ne va pas tous les faire, ce n'est pas le but, mais il y a quand même
des sections sympas, quoi.
Le front-end, ouais. Front-end framework.
Regarde le premier. Non, t'étais dessus là, descends un peu.
Tac, tac. C'est là.
HTMX, devant React.
Ouais. Ouais, après, ils regardent sans doute la progression, le nombre de stars qu'ils ont chopé sur l'année. Donc, potentiellement, oui. Ouais, ça se tient. HTMX a chopé plus de.
Ah, ils étaient deuxième. Ils étaient deuxième en 2023, HTMX, et en 2024, il est premier. Donc, okay. Tu vois, continue à progresser.
Ouais. Je sais. Peut-être qu'il y a un truc à faire avec HTMX. Je sais pas. Je suis pas encore totalement fan de ça. J'ai pas encore trouvé le use case qui me dit putain, mais il faut à tout prix que j'utilise cette techno là pour faire ça.
Donc c'est plus adapté à des projets classiques HTML où tu vas mettre de l'interaction avec tes attributs. En fait, l'utilisation est super simple. Tu mets quelques attributs, tout ça, et ça va te faire des appels Ajax automatiquement, tout ça, sans toucher le moindre JavaScript. Mais c'est plus pour des projets qui sont en pur HTML, avec du PHP ou des choses comme ça. C'est pas... Voilà. Si tu fais du React ou du Vue, tu n'en as pas du tout l'usage, en fait.
Ouais. Mais bon. Après, ça ne reste que des stars de GitHub. C'est le ego trip ou le vanity metric, comme disent certains marketeurs, qui est plutôt pas mal. Allez, là par contre, on revient sur quelque chose de plus solide. La transition est complètement nulle. Complètement nulle, j'en suis désolé.
C'est pas mal.
SolidJS, où en fait, c'est un article du créateur de SolidJS qui vient avec son point de vue, et il a créé SolidJS, Solid Start, et il vient un petit peu parler de React et de Vue.
Il critique en fait, en gros, il critique la complexité croissante des frameworks web en fait modernes comme React et Angular. Voilà. Et donc il met en avant SolidJS évidemment, hein, parce qu'il est simple et performant. Et en 2025, surtout ce que l'article que j'ai rajouté, parce qu'en 2025, il prévoit un virage vers les outils alliant puissance et simplicité. Et donc en fait, il dit que dans les frameworks à surveiller en fait, c'est Angular et Vue vraiment pour 2025. Parce que c'est simple.
Et pourquoi ? Ah, mais en fait, il n'a pas commencé en disant que Angular c'était complexe, mais qu'ils étaient en train de se simplifier.
Okay. Ouais, c'est ça.
Okay.
C'est vrai qu'Angular est en train d'énormément se simplifier, à l'inverse d'un autre framework qu'on ne citera pas. Mais des frameworks vraiment qui sont en train de se modifier et de regagner en popularité, Angular et Vue évidemment qui est toujours là, qui a toujours été facile à prendre en main et qui reste un super compétiteur parce qu'il a tout pour faire des très gros projets. Donc, contrairement à ce que beaucoup pensent, Vue est largement capable de faire des gros projets.
Arrête, parce que là, on va dire que je t'influence et que...
Non. Non, c'est la vérité.
Mais bien sûr. Moi, j'en suis
convaincu. Non, mais pour en parler régulièrement avec des équipes de dev ou des choses comme ça, c'est toujours la même chose. Quand tu parles de Vue, c'est facile à prendre en main, tout ça. Donc, du coup, comme c'est facile, c'est forcément considéré comme quelque chose de pas sérieux. Oui.
Mais Patrick, rappelle-toi qu'en bon ingénieur informatique, tu vois, il faut le culte de la complexité. Si c'est complexe, alors il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et donc, s'il n'y a que nous qui pouvons le faire, on est malin, on est intelligent parce qu'on est des devs, tu vois. C'est un peu la culture et c'est triste et c'est vraiment triste. Mais il y a cette, un peu le côté un peu érudit. Le fait d'utiliser des choses complexes, on se sent un peu plus malin. On peut difficilement lutter contre ça. Et je pense qu'il ne faut pas.
C'est dommage
de prêcher. Mais bien sûr,
Parce qu'on tourne en rond. Enfin, c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps dans un tweet. On tourne vraiment en rond au niveau du développement parce que les boîtes veulent faire du React et du Next parce que les devs font du React et du Next. Et les devs font du React et du Next parce que les boîtes veulent en faire. Donc en fait, on tourne en rond et ils n'arrivent plus à sortir de ce cercle en fait. Donc quand tu leur parles de Nux, de choses comme ça, d'alternatives en fait, peut-être, mais non en fait.
Ouais, mais il y a moins de devs, tout. Et le marché des devs, les devs, le marché. Et...
Ouais, mais en même temps, si tu maîtrises React et Next, tu maîtriseras sans problème du Nux et du Vue. C'est du JavaScript. On reste dans la même. Oui.
Et c'est comme toujours, la plupart de tes problèmes ne sont pas liés à Vue ou à Nuxt ou à Next. Oui. La plupart des problèmes, souvent, c'est du JS, c'est des problèmes de JS.
Ah oui, c'est ça.
Donc, les fondamentaux, oui, on ne va même pas parler de TypeScript, mais les fondamentaux du JS. Et oui. Et c'est pour ça qu'on arrive directement sur un autre article qui nous dit You don't need Next.js. On n'a pas besoin de Next.js. C'est encore un pamphlet c'est une prise de position qui est assez dure et assez radicale. Perso, moi, ça me va. Mais qu'est-ce qu'il nous dit cet article ?
Après, il donne des faits. Hein, voilà. Après, ça s'applique pas forcément à tout type d'application. Tout ça, lui, son application se prête parfaitement à la SPA, donc rendu client uniquement, puisque là, c'est un service qui s'appelle ConfiDeploy. Voilà. Je crois que c'est un truc pour déployer, je pense, j'imagine, vu le nom. Je ne connais pas. Et donc, en fait, ils étaient sur Next.js, et puis petit à petit, en fait, ils se sont rendus compte que déjà, ils avaient des coûts imprévus chez Vercel. Ils parlent d'une facture inattendue de 2 000 $ quand même. Donc, c'est un peu énorme.
Hashtag épisode Coolify, les gars. Hashtag voilà. Coolify.
Il dit que les tests étaient de plus en plus compliqués, que les compilations elles étaient de plus en plus longues, jusqu'à 7 minutes même, certaines compilations, et que le dev en local devenait de plus en plus lent. Donc, ils ont décidé en fait de retourner sur une architecture uniquement basée sur React avec TanStack Router, des choses comme ça. Voilà, du pur SPA basé React, etc., TanStack Router. Donc, simplicité. Et ils ont gagné tout en performance, tout ça. La compilation est beaucoup plus rapide, en moins de 2 secondes. Voilà. Les temps de build, ils parlent de moins de 18 secondes, alors qu'avant, ils parlent de 7 minutes sur Next. Donc voilà, il explique dans cet article la migration et les gains qu'ils ont eus.
Et tout simplement. Il y a toujours cette fuite en avant techno. On ne va pas revenir sur ce qu'on vient de dire, mais c'est très intéressant de comprendre en fait, le choix technologique qu'on fait a toujours un impact. Et c'est pas parce que c'est hype que c'est bien. Hashtag legacy boring tech, boring techno, des trucs comme ça. Mais ça, parfois, ça fait vraiment le job.
Ouais, mais souvent sur des applications qui sont juste SPA, on n'a pas forcément besoin de se jeter direct sur du Next ou du Nuxt. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un framework complet avec tous ces mécanismes de rendu statique, etc. Une simple SPA peut faire le job, en fait.
Après, le fait d'avoir une multiplicité de pages, de pouvoir partager l'URL de ta page, tu vois, des choses comme ça, ça rend quand même, sans passer du temps à configurer ton routeur ou des choses comme ça, voilà, y a toujours des gains.
Ouais, ça dépend le projet, ça dépend l'app. Mais
ouais, bien sûr.
Pour un système de dashboard où tu dois te connecter, etc., c'est pas besoin de...
Bien sûr.
Puis les routeurs sont très simples à mettre en place maintenant aussi. Tu prends du TanStack Router, des choses comme ça, c'est hyper simple à mettre en place.
C'est vrai, C'est vrai. Je pense que tu as connu aussi le fichier de config dans vieux routeur là, où tu devais te taper un énorme fichier et là tu comprenais pas tout. Oh, c'était horrible. Mais bon, ça c'était avant.
Oui.
Allez, on bascule sur Shopify qui nous fait un retour d'expérience avec leurs 5 années passées sur React Native. Et ouais. Qu'est-ce qu'il en sort de cet article
où, il revient sur 5 années de transition sur React Native en fait, pour les développements mobiles. Donc, ils ont des applications mobiles sur Shopify pour gérer ses sites, tout ça, enfin ses shops. Et donc voilà, il revient là-dessus, ce qu'ils ont gagné, le performance, le autre, ils parlent de portabilité, de le dev qui travaille que sur, qui fait Android et iOS en même temps. Enfin, voilà, tous les avantages en fait de React Native, et a priori c'est que du positif. Et il continue, donc à la fin il finit par dire qu'il continuera à investir sur React Native et que voilà, ça continue. Donc ils sont très contents 5 ans après d'être partis sur cette techno et voilà. Donc, un bon petit retour d'une vraie utilisation d'une grosse entreprise qui marche fort. Quoi.
Ouais, grosse utilisation. Quoi.
N'en déplaise aux haters des apps hybrides.
Ouais, hashtag...
On ne nommera personne.
Voilà, native app only, guys, ouais, on les connaît. Ok. Intéressant.
C'est pas une petite app qui est pas utilisée quoi, c'est un gros truc quoi, du Shopify. Donc un vrai retour d'expérience quoi.
Gros retour d'expérience, hyper intéressant. Célébra Inférence, qu'est-ce que c'est que ça? On bascule dans notre rubrique IA. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est l'inférence, on va redire très très rapidement, c'est l'utilisation, c'est la consommation d'un modèle. Et donc là, c'est Cerebra Inférence. Qu'est-ce qu'elle annonce? Des performances de maboule, des contextes où on peut envoyer beaucoup de tokens, des 1000 tokens à la seconde quasiment.
On peut faire de l'entraînement, je crois aussi. En fait, l'inférence, tu m'as parlé là, dans le dernier épisode IA, qu'on vous invite évidemment à écouter. D'ailleurs, on avait oublié de vous dire, de nous faire un retour un petit peu en commentaire si ça vous a plu l'épisode IA et si vous êtes OK pour qu'on fasse d'autres épisodes, évidemment. On avait parlé d'un service, je ne me souviens plus du nom, tu vas peut-être me rappeler.
Grok.
Grok, c'est ça, voilà.
Ouais.
Qui était ultra rapide.
Ouais.
Et on a aussi donc Cerebra AI qui est en Californie, je crois, et qui est pareil, inférence. Alors, ils se disent la plus rapide du monde.
Ok, alors Grok dit exactement la même chose.
Ouais, mais alors j'ai testé ce matin le chat et c'est juste hallucinant.
Ok, c'est bluffant.
T'as une vitesse de réponse bluffante. C'est-à-dire que moi j'ai mis plus de temps à écrire ma question que pour qu'il me réponde.
Que lui,
il me répond quand même plusieurs paragraphes, mais en extrêmement rapide. Quoi. C'est juste hallucinant. Je sais pas comment c'est possible. Mais
alors, pour le coup, tu vois, je ne sais pas comment en fait Cerebra a fait. Par contre, moi, je me suis vachement documenté sur Grok. Et en fait, Grok, ils ont fait leur propre chipset optimisé, qui est un mélange entre du GPU et du CPU, mais optimisé pour les modèles. Et en fait, c'est grâce à cette techno hardware qu'ils arrivent à avoir des propriétés d'inférence, mais ultra, ultra, ultra rapide. Et donc, c'est grâce à ça. Par contre, je ne sais pas en fait comment c'est fait sur Cerebra. Par contre, tu payes quoi? Tu payes le token? Tu payes c'est gratos?
Alors pour l'instant, tu payes rien parce que c'est sur. En fait, il faut remplir un formulaire. C'est tout nouveau. Hein, c'est vraiment tout nouveau. Donc, il faut remplir un formulaire et pour dire ce que tu veux faire. Et moi, j'attends la réponse pour l'accès. Donc, j'ai pas encore accès. Mais tu peux quand même tester le chat sur le site là, gratuitement.
Ok.
Mais voilà, j'attends mon accès.
Et par contre, tu peux mettre quoi comme modèle dessus?
Alors, il y a du Llama.
Tous les modèles dits open source.
Ouais, c'est ça, c'est les modèles open source. J'ai testé sur du Llama 3, 3.3, je crois, ce matin. Il y avait le 3.1 aussi. Donc après, j'ai pas fait le tour, mais il y a plusieurs modèles, mais surtout ouais, de l'open source et puis bah, certainement un DeepSeek bientôt. Mais
Il y a grande chance que ça arrive très très vite, ouais, c'est clair.
mais ouais, et c'est disponible aussi. D'ailleurs, c'est grâce à ça que je l'ai découvert. C'est disponible sur Vercel. Tu sais, via
Ah,
l'API IA où tu peux appeler le modèle
Vercel AI,
directement.
ouais. Ah,
Donc
excellent.
voilà.
Excellent. Yes. On reste toujours dans la version un peu IA, builder.io, qui est un espèce
Alors,
de. Enfin,
c'est pas
c'est.
ce lien, c'était l'autre, mais c'était pas
Ah.
le bon lien.
Oh,
Mais
c'est pas le bon
c'est eux,
lien.
oui.
Ok.
C'est lovable.dev. Et c'est un. Voilà, t'es dessus, voilà, nickel. Très
Ok.
rapide, je vois que tu maîtrises maintenant. Donc, c'est un système pour générer des apps, un peu comme. Rappelle-moi le nom
Bolt.
de Bolt,
Bolt.new.
voilà. C'est ça, c'est équivalent de Bolt, donc tu lui fais un prompt, il peut te générer une app, etc. Sauf que. Alors, déjà, c'est européen, je crois que c'est au Danemark, ils sont au Danemark, les devs. Enfin, la boîte, et tu peux importer un Figma. Donc, ça passe par. Donc, quand tu es dans Figma, tu utilises le plugin Builder.io, justement,
Ok.
qui va t'exporter vers Lovable. Et donc, après, à partir de ce Figma, il est capable de ce HTML généré du Figma, il te fait l'application, en fait. L'IA te génère l'application.
Pouah.
Voilà, alors j'ai testé un petit peu, ça marche, oui. Et après j'ai itéré un petit peu, tu sais, il y avait des chiffres, façon dashboard, je lui ai dit de me faire un petit décompte des chiffres, etc. Il me l'a rajouté, tout ça, machin. Donc oui, ça marche très très bien. Et c'est à partir de Figma, quoi.
C'est hallucinant.
Voilà.
C'est hallucinant. Moi, je pense, tu vois, sur tout ce qui est landing page,
Oui.
acquisition ou des choses comme ça, on design tout sur Figma, on passe sur ces systèmes-là, ça nous sort du HTML un peu quick and dirty, mais au moins ça
Ah, c'est ça,
marche.
ouais.
Et la possibilité d'itérer, la vitesse d'itération va être multipliée par je ne sais pas combien. Non, c'est hallucinant.
Ouais,
Trop
puis
bien.
derrière, tu retouches un petit peu, tu peaufines, machin, voilà, tu corriges. Mais oui, tu gagnes un temps. Enfin, en tout cas, pour lancer le truc, ça va, t'as de suite quelque chose d'utilisable et après tu finis, quoi, à la main. Mais
Ouais,
un gain de temps
et
énorme, hein.
bien sûr, bien sûr. Et tu vois, je voyais des discussions de dev et de no codeurs qui disaient, ouais, on n'a plus besoin de dev, on n'a plus besoin de dev, tout. Objectivement, ok, on va aller très très vite avec ces outils-là. Par contre, le fait d'avoir des compétences, même minimes, en dev, en fait, vont te permettre de tweaker le dernier truc final, tu vois, sans pour autant, en fait, croquer des tokens et de réitérer à chaque fois. Parce que, ok, tu comprends que là, tu peux chanter parce que tu as cette logique-là de dev. Et donc, je pense que tu as tout intérêt à utiliser ces outils-là pour faire 80% du boulot ou 90% du boulot. Et les derniers 10%, tu relis, tu réajustes avec tes compétences toi propre. Et là, en fait, bon, tu peux faire vraiment très, 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 très mal, je pense.
Oui, surtout, et puis il faut surtout savoir l'exprimer, en fait, ce que tu veux modifier, savoir lui dire comment, voilà, ce que tu veux. C'est pas aussi simple. Donc ça reste en fait de l'itération, de prompt au fur et à mesure. J'avais vu, je sais pas si t'avais vu, il y avait des artistes, il y a des artistes maintenant IA, on appelle ça des artistes IA, qui font
OK.
des œuvres d'art, en fait, avec l'IA. Mais c'est toujours considéré en gros comme de l'art, puisqu'en fait, certaines œuvres d'art demandent jusqu'à 800 itérations, en fait. Donc c'est énormément de travail pour arriver au résultat final. Donc malgré tout, il y a du travail. C'est l'IA qui bosse, mais il faut savoir lui exprimer voilà, les modifications, le besoin que tu veux, etc. Donc les devs aussi, ça va servir aussi beaucoup à ça. On va exprimer le besoin. Parce que c'est vrai que souvent, bon, bref, on va pas parler des clients, mais exprimer le besoin, c'est compliqué.
Non, c'est vrai? Suivez mon regard, suivez mon regard. Alors pour c'est une private joke qu'on a avec Patrick, où on a eu en fait des interactions sur des clients communs où on avait besoin d'échanger. Et on est tous d'accord pour dire que la définition et l'expression du besoin client est parfois toujours un peu compliquée. Et c'est à nous, en tant que dev, d'être en capacité de faire accoucher le client de sa demande et de verbaliser mieux que lui-même sa demande. Mais bon, ça, c'est...
J'aime bien ton terme, accoucher.
Ouais, mais c'est vraiment ça, quoi.
C'est
vraiment ça. Yes. L'usine digitale, on est obligé de parler du nouveau modèle qui vient de sortir de DeepSeek, ouais. Donc qui est la start-up chinoise qui annonce des performances de Maboule et qui a rendu son modèle disponible. Et beaucoup de personnes ont testé et sont plutôt bluffées par sa capacité à verbaliser et à structurer, à raisonner, à sortir des mathématiques du code. Et on se devait de parler de DeepSeek. Et je pense que la version chinoise d'OpenIA est plutôt pas mal.
Ouais, de toute façon, on est obligé d'en parler parce que c'est un changement. Là, c'est vraiment un événement. Et un changement de paradigme parce que ça, c'est surtout le coût qu'ils ont eu pour entraîner le modèle qui est 100 fois inférieur à OpenAI. Donc, okay. Et d'ailleurs, la bourse, alors c'est tout frais, hein, ça fait une semaine qu'il est sorti le modèle.
Ouais.
Et hier, le lundi matin, la bourse s'est effondrée aux États-Unis puisqu'en fait, ça remet en question les investissements et la justification aussi de pourquoi OpenAI, ça leur coûte aussi cher d'entraîner les modèles et pourquoi là, les Chinois, ils ont réussi à faire un truc qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Alors, il faut aussi dire que le fait qu'il coûte moins cher à entraîner va aussi nous coûter moins cher à l'utiliser en tant que dev. Mm-hmm. Quand on va faire de l'inférence, les tokens seront beaucoup moins chers. Donc, c'est aussi intéressant à ce niveau-là. Mais là, on est dans un virage. Alors, on va voir ce qui va se passer parce qu'en plus, alors on n'est pas dans le rendez-vous tech, alors on va pas faire politique, tout ça, mais.
La projection.
c'est un coup de massue. Là, ils ont vraiment réussi un tour de force. Et à quelques jours de l'annonce de Stargate, l'investissement massif aux États-Unis, enfin, tout ce succède là, c'est assez intéressant et de voir comment ça. En tout cas, DeepSeek a eu beaucoup de mal à répondre et était un petit peu down pendant 2 jours là.
Ouais.
Donc un peu trop de succès apparemment, certains disent qu'ils se sont fait attaquer, mais je pense que c'est surtout le succès, mais assez incroyable cette annonce et ce modèle qui arrive de Chine.
Et ce qui est hallucinant, c'est que tu peux télécharger le modèle toi-même, c'est-à-dire que tu peux le faire tourner, tu peux déjà le faire tourner sur ton Ollama si tu as une machine assez puissante, et tu vas avoir différents types de modèles avec des tokens d'entrée, tu as le 7, le 15, le 70, le 140. Et donc, évidemment, si tu fais tourner un gros modèle, il va te falloir une grosse machine pour pouvoir supporter tout ça. Mais même les modèles on va dire light, on va dire, je sais plus le terme exact qu'ils utilisent chez DeepSeek, mais la version light, en fait, va vraiment en fait être en capacité à verbaliser des phrases de manière hallucinante, et tu peux faire tourner ces modèles-là en local sur tes petites machines, et ça c'est
ouf, quoi. Ouais, tu peux le faire tourner sur Ollama, il est disponible. J'ai regardé ce matin, donc il est disponible aussi sur GreenFace normalement. Donc c'est du vrai open source.
Est-ce que c'est du vrai open source? Est-ce qu'ils ont publié toutes les données?
Alors oui, ils ont publié plus de choses que ils ont publié plus de choses que les autres, que Meta et Mistral. Donc oui, ils considèrent qu'il est plus open source celui-là, et d'ailleurs tu peux le réentraîner, je crois, derrière. Donc oui. D'ailleurs, c'est la startup à la base, c'est pas vraiment une startup tech IA, c'est un fonds d'investissement, etc. Qui utilise ça. Donc intéressant, et ça fait plaisir de voir de l'innovation qui vient d'ailleurs que les États-Unis.
Et ouais. Et ça, par contre, ça doit peut-être faire peur un peu aux ricains qui ont déboursé des milliards.
Ça va pas leur plaire.
Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr.
Ouais, en attendant, nous, on a sorti Lucie en France, donc c'est cool.
Ouais. C'est méchant, Patrick. Pas de politique sur double slash, on a dit. Pas de politique. Mais oui, malheureusement, on est un peu loin. Après, on peut pas jeter la pierre. C'est déjà une initiative. Oui. Ils essayent. Par contre, c'est sûr que je pense qu'ils sont très loin des budgets à accorder. Et quand la Chine met un pourcentage de son PIB dans l'histoire, bah, le PIB, même le pourcentage à la fin, il est tellement énorme qu'ils ont des moyens hallucinants, quoi. Donc, ouais. Non. Top. Écoute, Patrick, on en reste là pour ce premier épisode de l'année news, séquencé avec cette nouvelle rubrique. Dites-nous si vous voulez des rubriques bien spécifiques sur lesquelles on pourrait venir alimenter ces épisodes news. En tout cas, nous, ça nous fait toujours plaisir d'être là au rendez-vous sur les news. On sera encore là sur 2025. On vous dit un grand merci d'être resté jusqu'au bout de l'épisode et on vous dit à bientôt pour d'autres épisodes. Ciao, ciao.
Ciao.